Bonjour à tous, chers auditeurs, vous écoutez En Spectateur pour un numéro un peu spécial puisque ce n'est ni moi ni Eugénie qui vont vous parler de théâtre, mais Agathe, qui a interviewé pour nous une figure centrale du théâtre en France, Olivier Py. Il nous parle de sa pièce Orlando ou l'impatience qui s'est jouée au Théâtre National Populaire de Villeurbanne du 24 mars au 2 avril. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Agathe et à Olivier Py. Olivier Py, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, pour Transistor, nous allons parler d'Orlando, ou l'impatience, que vous avez écrit et mis en scène. Ce spectacle, c'était votre première création à Avignon en 2014 en tant que directeur du festival. Et hier, jeudi 2 avril, ici même au TNP, se jouait la dernière. C'est donc l'histoire d'Orlando, un jeune homme en quête de son père. Sa mère, qui est une grande actrice, lui donne 5 réponses, 5 pères possibles, 5 variations, toutes fausses, puisque le soir de la conception d'Orlando, le soir de l'inauguration du Crystal Palace, aucun des 5 n'était là. Dans cette course au père, l'on rencontre aussi l'amant, l'amante et le fils d'Orlando, un ministre de la culture masochiste et son directeur de cabinet fou. Un directeur de cabinet qui est à la fois un professeur de diction, un athéiste, un ostéopathe, un affirmatologue, un troueur, un milliardaire et un théâtre fou. Ces personnages évoluent sur une mouvante structure de bois et de métal. Et justement, cette structure, comment fait-elle écho à la structure de la pièce elle-même ?
Je travaille avec Pierre-André Vette, qui est donc le scénographe costumier depuis presque l'origine, depuis 25 ans. Et il a imaginé un rapport à la scénographie qui ressemble beaucoup plus à une chorégraphie d'espace. Alors évidemment, si on sort du théâtre bourgeois, le théâtre bourgeois c'est le théâtre qui se passe dans une chambre. Si on sort du théâtre bourgeois, il faut inventer une manière de figurer le monde. Ça tombe bien puisque moi je fais aussi des pièces systémiques qui veulent atteindre à la totalité, qui ont la prétention de tout dire, donc de représenter le monde. Il n'y a que deux formes de théâtre. Sur scène, on représente soit une chambre, soit le monde. On représente une chambre, c'est le théâtre bourgeois. Quand on représente le monde, c'est le théâtre shakespearien, si on veut. Mais toute la différence est là. Lui, il a trouvé une manière à la fois très simple et en même temps très efficace, et toujours renouvelée, de présenter la totalité avec un même décor dans ses permutations, dans ses déconstructions et dans ses reconstructions. Les décors que fait Pierre-André sont souvent des décors qu'on ne peut pas dire a priori dramaturgiques, c'est-à-dire qui ne sont pas directement liés à l'œuvre. En fait, je crois qu'un décor de Pierre-André est réussi quand on peut jouer la totalité du répertoire
avec cette même structure,
à quelques accessoires près, mais qui sont secondaires. Voilà. Ce sont les principes fondamentaux de l'œuvre de Monsieur Vetz.
Et justement, cette structure, manifestement, elle ne changerait pas. Vos acteurs, manifestement, s'ils ne changent pas, en tout cas, c'est vos compagnons de longue date. Il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent dans vos créations. Et plusieurs fois dans la pièce reviennent des questions sur ce qu'est un acteur. On entend par exemple qu'il faut être bête pour être acteur ou encore que l'acteur est un trou. Pour vous, qu'est-ce qu'un acteur ? Est-ce qu'il est caractérisé par un manque, une absence ?
Ça fait beaucoup de questions en une, mais pour essayer de ne pas y répondre, je vous dirais que, bien évidemment, quand je dis que les pièces que je propose sont souvent des pièces systémiques et qui parlent de tout, leur manière de parler de tout, c'est d'abord d'être métathéâtral et de parler du théâtre. C'est pas parler du théâtre parce que c'est le monde que je connais ou je ne sais quoi. C'est parler du théâtre parce que parler du théâtre, c'est une manière de parler de la totalité. La meilleure manière, pour moi, de parler de la totalité. Au théâtre. Alors évidemment, comme on parle du théâtre, on parle aussi de l'acteur. Activité qui me paraît, avec les années, de plus en plus mystérieuse. Quelle est la pulsion qui pousse un homme à aller se sacrifier son image comme ça sur scène? Ça me paraît, avec les années, de plus en plus mystérieux. Mais on se pose, oui, beaucoup la question de l'acteur. Peut-être qu'il y a, par moments, mais c'est aussi très ironique, une sorte de rédemption par le théâtre, une sorte de miséricorde du théâtre. C'est la parole que de la mère, notamment. Mais ça peut être un peu ironique. Je dirais qu'il y a une seule vraie utopie dans cette pièce, c'est le ménage à trois. C'est l'idée de changer l'amour. C'est l'idée de sortir par l'amour sexué, du mode de la rivalité. Ce qui est un projet tout à fait insensé, voire impossible. Mm-hmm. A priori, la sexualité et la rivalité ont partie liée pour le pire. Mais là, c'est l'idée que si on arrivait à résoudre une équation à trois paramètres absolument réussie et équilibrée, on arriverait peut-être à résoudre le mystère même de la violence. parcours, c'est la seule vraie utopie qui est dans la pièce. C'était pas très programmé de ma part. De toute façon, je ne programme rien quand j'écris une pièce. C'est un champ expérimental et qui me surprend moi-même à l'arrivée.
Et c'est aussi une quête comme la quête du père qui ne fonctionne pas, puisque le ménage à trois n'est pas exactement réussi, je dirais, dans la pièce.
Oui, enfin. Heureusement que ça ne fonctionne pas. Heureusement que les pères sont des hypothèses. Et d'ailleurs, il y en a un ou deux qui ne sont pas si mauvais que ça, ni si ridicules, mais qui se défendent d'être des pères, d'ailleurs. Je crois que c'est ça la différence entre un sage et un gourou. Dans ma vie, j'ai cherché des pères. Bon, c'est pratique parce que des pères, c'est des personnages. Mais souvent, ces pères-là, c'était juste des idées à laquelle je me suis voué de manière exaltée, avec quelques désillusions. La somme de ces désillusions a fait cette pièce.
C'est ce spectacle.
Mais ça ne fait pas du tout une pièce amère, au contraire.
Oui, mais justement, c'est ça, c'est vraiment le rire qui est au cœur de cette pièce, qui porte toute la pièce. C'est vraiment ce rire-là. On sent l'amertume, mais il y a toujours un rire derrière.
Non, l'amertume, je n'en ai aucune. Très sincèrement, je n'en ai aucune. Et avec cette pièce, je crois que j'ai écrit une des pièces qui sont parmi ce que j'ai écrit de plus doux, on pourrait dire, de moins violent, de plus doux. C'est très étrange, ça m'est apparu aussi. Comme ça. J'ai mis le mot comédie parce qu'en général, quand on sous-titre comédie, on a plus de chances que d'avoir des spectateurs qui viennent. Les journalistes sont en général plus indulgents quand on nous dit qu'on fait une comédie. Parce que si jamais j'avais écrit une chose, comment dire, comme conte philosophique ou somme théologique d'Olivier Py après 30 ans de théâtre, je pense que les gens auraient été plus méchants avec moi.
Et justement, pour l'écriture, vous dites que vous avez écrit quelque chose de très doux, mais vous vouliez écrire quelque chose de très doux ou vous l'avez écrit au fur et à mesure et vous vous êtes rendu compte ensuite de cette douceur? Comment vous avez écrit Orlando ou l'impatience?
Je voulais écrire une comédie, ça c'est vrai. Je l'avais fait qu'une fois, véritablement, c'était Illusion Comique, qui était aussi une méta-comédie, une comédie qui parle du théâtre, avec à l'intérieur, puisqu'il y avait plusieurs théâtres, des passages qui n'étaient pas des passages à proprement parler de comédie, ou qu'on pouvait voir des passages de comédie, mais simplement par un regard inversé, parce qu'en eux-mêmes, dans l'écriture, ils étaient plutôt de la tragédie, ou de la tragédie lyrique, ou d'autres choses, ou de la méditation ontologique, ou que sais-je. Et là, je voulais revenir à cette idée-là. Je voulais refaire Illusion Comique, en mieux.
Et justement, vous parliez de d'ontologie. Vous êtes sur le point de participer à un colloque sur la philosophie et le théâtre. Vous êtes dramaturge, metteur en scène, comédien.
Mais pas philosophe.
Et justement, pourquoi
Je n'ai jamais été philosophe. Je ne suis pas capable.
Ouais.
Chacun son truc. Moi, je ne suis pas capable. Je n'ai jamais été philosophe. J'ai été parfois un penseur religieux. J'aurais voulu être un théologien, mais il faut beaucoup travailler. Je suis trop paresseux pour ça. Je n'ai jamais été un philosophe. Trop dur. Trop terrible. Non, je suis pas capable de. Je suis pas du tout capable de ça. Chacun son truc. Faut pas se forcer.
Est-ce que vous diriez que le théâtre a quelque chose à apporter à la philosophie ou quelque chose que le théâtre aurait que la philosophie n'a pas pour parler du monde?
Ah ben, je crois que le théâtre a très précisément ce que la philosophie n'a pas. Mmh. Non, la philosophie, si elle est vraiment philosophique. Elle devrait prendre tout à fait en compte une sorte d'échec. Elle devrait prendre tout à fait en compte que le maître absolu, c'est la mort. Et qu'en plus, on ne le rencontre jamais. Donc, ça ne me plaît pas. Je trouve ça trop déceptif. Je ne suis pas capable d'une chose aussi aride. Et je préfère faire l'amour avec les acteurs et les actrices dans la plus grande joie, dans l'illusion. Et dans l'idée qu'au théâtre, ce qu'on appelle la vérité est aussi fait d'illusion. Que l'idée de rechercher une vérité en soi, pure, parfaite, ça n'est jamais que... Ça n'est jamais que la mort. Et voilà. Et moi, je suis dans un monde où, non, la mort n'est pas le maître absolu. Ce qui est le maître absolu, c'est le théâtre. C'est d'ailleurs la parole. Un philosophe digne de ce nom devrait toujours se méfier du langage et de la parole et de l'incapacité du langage à atteindre l'essence des choses. Et un homme de théâtre n'a rien à foutre de cette question. Il la trouve tout à fait inutile et il n'a pas envie de perdre son temps avec ce genre de crampe mentale. C'est ça.
D'accord. Olivier Py, merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup.
Si le travail d'Olivier Py vous intéresse, ses prochaines créations seront mises en scène cet été en Avignon. L'artiste présentera notamment Le Roi Lear de Shakespeare. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.